Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30, sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir à tous, c'est bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, dans l'émission Zoom Écologie. D'ailleurs, je remercie l'équipe de m'inviter à cette émission. Ce soir, nous parlerons donc des essais nucléaires qui se sont déroulés en Polynésie française, à Mururoa plus précisément. Je suis avec Sarah et Céline. Bonjour à vous.
Bonjour.
Cyril, super technicien à la technique, bien sûr. Et ce soir, je reçois Patrick, qui est donc un vétéran, qui était sur place là-bas dans les années 70, enfin en 68, si mes souvenirs sont bons. Nous allons avoir également le directeur de l'Observatoire de l'armement, qui s'appelle M. Patrick Bouvrette, qui va intervenir par téléphone. Dis-moi Patrick, tu étais donc sur place dans les années 68 à Mururoa, je crois.
En effet.
Qu'est-ce que tu faisais là-bas exactement comme profession ?
Alors j'étais sur un bâtiment qui recevait le personnel du CEA. C'est un navire-hôtel qui accueillait tout le personnel qui était sur le site de Mururoa. On les recevait pour la restauration et l'hôtellerie. Et je faisais partie du personnel qui accueillait donc le personnel du CEA et en général les officiers, les sous-officiers qui étaient sur le site de Mururoa.
Alors tu y étais en tant que quoi ?
J'étais matelot et ma spécialité était l'hôtellerie.
Mais tu faisais ton service militaire ?
Et je faisais mon service militaire puisqu'on était encore enrôlé à l'époque. Pour faire son service militaire, ce qui n'est plus le cas.
En cette mi-janvier, sous les ordres du Sénat, s'ouvre un débat qui n'attire guère les foules. Et pour cause, on y parle de la Polynésie, située à 18 000 km de là, autant dire un autre monde. Pourtant, ce jour s'inscrira peut-être dans l'histoire.
Nier les atteintes à l'environnement, partout, en Océanie, en Polynésie française, c'est nier une partie de l'identité même du Polynésien. Ce caillou provient de Mururoa. C'est exactement de ceci dont il s'agit, et pas d'autre chose. C'est de ceci. C'est Mururoa. Visualisons ensemble les 41 flashs, puis déflagration thermonucléaire en plein air, au-dessus de Mururoa. Magnifique, disaient certains de vos prédécesseurs, monsieur le ministre.
Bah, je voulais juste rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est quand même 150 000 personnes qui ont participé de 1960 à 1996 à 210 expériences nucléaires réalisées par la France. Donc d'abord au Sahara et à partir de 1966 en Polynésie, donc à Mururoa et à Fangataufa. Donc, pour la plupart, les militaires qui participaient à ces opérations, c'était dans le cadre de leur service militaire, donc comme Patrick, et pas plus que les travailleurs algériens et polynésiens, qui étaient également embauchés pour ces essais, ils n'étaient informés des risques qu'ils pouvaient courir. Donc, en fait, c'était d'abord en Algérie, dans le Sahara. Et en 1962, donc quand l'Algérie devient indépendante, les accords franco-algériens prévoient que les Français vont pouvoir continuer leurs expériences durant 5 ans et avancent comme site de rechange la Polynésie. Et à ce moment-là, on décide également de revenir aux essais dans l'atmosphère. Alors la France continue à mener ses essais alors que en 1963, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni ont déjà signé le traité d'interdiction des essais nucléaires atmosphériques. Mais en France, il a fallu attendre jusqu'en 1974, après une vaste campagne de protestation, pour qu'on arrête les essais dans l'atmosphère. Et donc en Polynésie, c'est 46 tirs aériens qui ont été menés. Donc la Polynésie, c'est un ensemble d'archipels, donc c'est énormément de personnes et de gens qui ont été concernés. Et ça représente l'équivalent de 675 Hiroshima. Donc c'est évidemment la période des essais atmosphériques qui a été la plus nocive, même si après les essais souterrains n'ont pas été sans conséquences non plus. Et la France, durant toute cette période, a affirmé qu'il n'y avait absolument pas de danger, malgré des mesures révélées notamment par des laboratoires australiens, donc qui étaient à proximité. et malgré également une vive contestation en France, notamment dans les rangs socialistes, et des manifestations publiques qui ont été organisées dès les années 60 autour notamment de la communauté non-violente de l'Arche, de Lanza del Vasto, et malgré aussi les protestations des États voisins, de l'Algérie et de la Polynésie. Et donc, et malgré également une contestation en Polynésie, où il y a eu des prises de position courageuses d'hommes politiques, de l'Église évangélique et des ONG, et donc qui a notamment conduit à arrêter ses essais nucléaires en 1974. Et donc on a vu à partir de 1975, où Jacques Chirac a annoncé qu'il voulait reprendre les essais nucléaires, une mobilisation se constituer, d'une part en Polynésie, donc c'est une, c'est, et qui a débouché sur la création de l'association Morurora et Tabou, en 2001, ainsi que en France, les anciens vétérans qui se sont mobilisés et qui ont donné naissance à l'AVEN en 2001 également. Voilà. Et tout ceci a notamment fini par aboutir sur la loi Morin en 2010, mais qui est une loi dont on va reparler, qui présente de très très graves lacunes dont on dénonce... déjà, le fait que ce soit le même organisme qui soit chargé de l'indemnisation des victimes, et alors que c'était lui-même qui était responsable des essais nucléaires. C'est également une très forte restriction des maladies qui sont reconnues, et c'est aussi une restriction des zones géographiques où les gens sont susceptibles d'être reconnus comme victimes de ces essais, notamment en Polynésie, on reviendra dessus, mais ça concerne que quelques atolls, alors que les populations concernées sont bien plus nombreuses. Oui,
nombreuses et variées,
bien sûr.
Voilà.
Merci Céline. Alors, justement, toi, tu étais sur place là, en 68.
En effet. Oui.
Alors, tu peux nous raconter un peu ce que tu y as vu déjà et un petit peu ce que tu y as vécu.
C'est un atoll qui n'est pas terriblement visible de même de très très loin. C'est éloigné, c'est très plat, et nous avons peut-être quelques kilomètres de surface. Il n'y a pas grand-chose, sinon les bâtiments autour qui font la logistique et qui permet d'ailleurs de faire avancer les expérimentations.
Alors toi, tu étais sur un bâtiment de transporteur de troupes, hein, si mes souvenirs sont bons.
Alors c'est un transporteur de troupes qualifié comme tel par la marine nationale, mais néanmoins, il était précisément fait pour accueillir les personnels du CEA, les officiers, les sous-officiers, les techniciens qui faisaient nécessairement le process pour les explosions nucléaires.
D'accord. Alors, tu nous as dit en micro que tu as participé à 2.0. Qu'est-ce qu'un 1.0 exactement ?
1.0, c'est quand on prépare une explosion atomique et que les personnels sont tenus à rentrer dans des situations où on ne peut pas nécessairement avoir une quelconque approche avec l'impact de la fission nucléaire. Mais on s'est aperçu que sur certaines explosions, le personnel n'était absolument pas du tout informé et se retrouvait à l'air libre en train de prendre avec des caméras la très belle explosion du flash sans s'en réaliser qu'il pouvait perdre la vue ou avoir des pathologies ultérieurement.
D'accord. Et ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout ni avec masque, ni avec...
Absolument rien. D'accord. Pas du tout informés par leur hiérarchie. Et nous étions sans dosimètre et sans nécessité de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. On était juste en spectateur, privilégié, mais vraiment, je ne crois pas que c'était le moyen d'informer le personnel proprement, si j'ose m'exprimer ainsi.
Sarah ?
Mais la hiérarchie et les gens du CEA étaient au courant ?
Alors la hiérarchie, les officiers, naturellement, avaient des dosimètres, nous n'en avions pas. Les ingénieurs du CEA également avaient des dosimètres, et nous n'étions pas du tout au courant, sinon qu'on nous avait annoncé qu'on allait prendre 5000 rams, ce qui signifie pas grand-chose pour un matelot inexpérimenté en ce qui concerne le nucléaire, et on a appris bien plus tard que 5000 rams, ce sont des doses mortelles.
Alors justement, toi, tu as été touché par ce...
Alors moi, j'ai des séquelles, naturellement, comme la plupart des personnels, c'est-à-dire des pathologies comme l'ossification du larynx, des ulcères, des cataractes, des multiples et variées pathologies que l'on retrouve maintenant même dans le personnel civil qui s'occupe du nucléaire.
Alors justement, je voudrais que tu me racontes un petit peu, parce que tu, par rapport aux explosions que tu as vues, toi, c'était quand même assez loin. Vous étiez à combien de kilomètres de...
Alors j'ai fait 2.0, hein, ouais. Qui était donc une explosion en atmosphère. Oui. Et la seconde était une explosion naturellement sous-marine. Ouais. Nous avons dû être... on nous a déplacé le bâtiment, qui est donc un transporteur de troupes à 80 miles nautiques. Ce qui correspond à environ 120 km de rayon par rapport à l'élément d'impact de la
épicentre, bombe. Ce qu'on appelle l'épicentre, oui.
Voilà, et nous étions avec le sentiment en point zéro de se retrouver sur une barcasse, c'est-à-dire qu'il y a un impact terriblement important sous l'eau, et on le ressent très nettement, même à 80 miles nautiques.
Ça veut dire que vous aviez un bâtiment qui était extrêmement lourd, puisque il y avait combien de personnel sur ce bâtiment justement ?
Il y a un millier de personnes.
Un millier de personnes, ça veut dire que le bâtiment était très très grand, très haut, j'imagine.
C'est un paquebot.
C'est un paquebot, voilà. Donc à 120 km, l'onde de choc a permis à ce paquebot très lourd de devenir une petite barquette.
En effet.
D'accord. C'est quand même impressionnant. c'est... D'accord. Alors toi, justement, par rapport, j'imagine qu'aujourd'hui,
depuis toujours, j'imagine que tu es...
Tu es militant, tu fais partie d'une association, tu essaies de...
Ben, nous sommes plus ou moins reconcentrés, pour la plupart de ceux qui restent vivants, à La Veine. C'est une association qui est située à Lyon.
Oui.
Mais on n'a pas de réponse nécessairement tout à fait acceptable pour le moment, en ce qui concerne les séquelles de santé que nous avons pu avoir les uns et les autres.
Sarah,
ouais. Et comment ça s'est passé ? Donc tu nous as dit hors antenne que toi, tu étais resté un an sur site, donc entre mai 68 et mai 69. Comment ça s'est passé après ? Comment vous avez commencé à penser à ce que vous aviez vécu, à peut-être voir venir les premiers symptômes ?
Les premiers symptômes n'interviennent pas obligatoirement. Ça dépend des organismes des uns et des autres. C'est très variable. Pour moi, peut-être que j'étais plus ou moins radio-induit positif et que je n'ai pas déclenché des pathologies aussi rapidement que certains de mes collègues. Mais le constat des faits, c'est que nous sommes moins de 10% actuellement encore vivants sur 150 000 personnes. Et qu'on peut laisser supposer qu'à partir de là, moins de 10% sur un demi-siècle, nous avons perdu 20 ans d'espérance de vie par rapport à la moyenne nationale.
Quand est-ce que vous avez commencé à vous mobiliser sur cette question ?
La mobilisation, elle s'est faite par rapport où on a obtenu les informations qui puissent nous permettre de nous mobiliser enfin et d'être en partie, ou tout ou partie, de cette association à la de La Veine. Maintenant, les réponses, on les attend du gouvernement, bien entendu.
Est-ce que vous avez vos dossiers médicaux ? Il y a eu un suivi ?
Il n'y a eu aucun suivi médical. Dès lors où on met un secret défense sur un événement, nous n'avons aucun suivi médical. Ce qui aurait dû être le cas. Ne serait-ce que pour évaluer le type de pathologie que nous avons maintenant désormais. Officiellement, qui sont de l'ordre de 18 pathologies officiellement et officieusement de 225, d'après ce qui a été rendu public dans le journal Le Figaro, sur les points d'impact. C'est ce que je crains pour les Nippons actuellement.
Alors, est-ce que c'est le travail notamment donc de l'Observatoire des armements et qui est le centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits qui vous a permis d'avoir des informations ou...
Non, c'est juste non. Rendu public par voie de presse, en étant aux aguets de ce qui peut sortir, mais on n'avait absolument aucune information, sinon officielle.
On va recevoir au téléphone Patrice Bouvray, donc, qui est responsable de cet observatoire. Donc c'est un lieu qui est né en 1984 à Lyon. Et qui a pour but d'aider donc la société civile à se mobiliser sur les questions de défense et de sécurité, et qui milite pour une démilitarisation.
Et il a notamment permis les travaux de Bruno Barrio, donc notamment, moi je connais Les Irradiés de la République, mais il y a beaucoup d'autres ouvrages qui ont permis de fournir une documentation sur ces sujets. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu.
Il y a en ce moment un livre très amusant qui est sorti, qui est fait par Nicolas Lambert, qui est un acteur, qui a regroupé l'ensemble des préoccupations qui ont été faites sur le plan politique depuis lors. Et c'est plutôt intéressant. Il y a plusieurs actes dans cette pièce. C'est une pièce de théâtre. C'est bien, très bien présenté.
Ça s'appelle Un avenir radieux. Hein.
Ça s'appelle Un avenir radieux.
Voilà, très bien. Alors, merci. Alors, Patrice.
Oui.
Oui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en entendant ce témoignage, quelles sont tes premières réflexions ?
Il y a beaucoup d'informations un petit peu à rectifier en entendant le témoignage. Parce qu'effectivement, bon, c'est toujours la difficulté. C'est un témoignage d'une personne qui a vécu une partie des événements. Donc il faut compléter par rapport à ce qu'ont pu vivre les populations et puis ce qui a pu se passer aussi non seulement en Polynésie mais surtout aussi en Algérie puisque c'est là qu'ont eu lieu les premiers essais et c'est là aussi où, vu la situation, vu le contexte de guerre dans lequel on était, il y a eu aussi les plus gros problèmes qui se sont déroulés, les accidents aussi au niveau des tirs parce que faut pas oublier que c'était des essais. Et si la France faisait des essais, c'est parce qu'elle maîtrisait pas les techniques. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu des problèmes.
Oui, alors juste une question encore, s'il te plaît. Justement, on parlait à l'époque, quand on faisait les essais, les scientifiques n'avaient aucune maîtrise de la situation. Donc ils jetaient des ballons dans l'air pour voir si les ballons allaient vers l'est, l'ouest, pour éventuellement décider d'un point d'impact. Est-ce très sérieux tout ça, finalement ?
Non, je crois quand même, les scientifiques au niveau technique, ils avaient quand même une certaine maîtrise de ce qu'ils faisaient. Simplement, si ils faisaient des expériences, c'était bien justement pour améliorer leur connaissance de la question, parce que, bien évidemment, ils maîtrisaient pas tout. Et puis surtout, le gros problème, de toute façon, par rapport aux retombées, puisque là, l'intérêt, c'est pas vraiment la question technique de savoir comment faire exploser une bombe, etc. Mais c'est plutôt par rapport aux conséquences. Il faut reconnaître que le gouvernement, par rapport à ça, sa priorité, c'était pas de protéger les populations ni le personnel. La priorité, c'était d'obtenir la bombe, puisqu'à l'époque, on craignait une guerre nucléaire. Enfin, en tout cas, les dirigeants de l'époque se mettaient dans une situation de craindre une guerre nucléaire et voulaient maîtriser à tout prix, je dirais même quel qu'en soit le prix auprès des populations et du personnel, la technologie. Donc il y a eu des fois où la bombe, l'explosion a eu lieu, même si les vents n'étaient pas favorables, parce que les vents, on ne les maîtrise pas comme on veut, et ils se retournent, mais aussi parce que ce jour-là, le ministre était venu regarder un essai, et donc on ne pouvait pas reculer pendant 8 jours la présence du ministre de l'autre côté de la Terre, en Polynésie, et donc on faisait quand même l'explosion. On a eu aussi ce type de situation. Une espèce de mépris d'ailleurs par rapport aux populations et au personnel, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut l'analyser.
Est-ce que tu peux nous dire 2 mots des relations entre scientifiques et militaires à ce moment-là, parce que tu passes un peu de l'un à l'autre et peut-être même au CEA si tu as quelques infos là-dessus?
De toute façon, les scientifiques, quand je parle des scientifiques, c'était les scientifiques du CEA. Le CEA, c'est un organisme civil et militaire, mais c'est surtout ceux qui participaient à la préparation du programme des essais nucléaires. Ils faisaient partie de ce qu'on appelle donc la direction des applications militaires du CEA. C'était pour l'essentiel des gens qui étaient aussi des militaires ou qui avaient un statut équivalent aux militaires, ceux qui travaillaient sur ces programmes-là. C'était des militaires scientifiques, ou des scientifiques militaires, comme on veut. Donc, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de soucis de ce côté-là. Leur priorité, c'était vraiment de faire la bombe. Le CEA, donc, c'est le Commissariat à l'énergie atomique, qui a été créé tout de suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc pour préparer la bombe, pour l'essentiel, c'était ça son objectif numéro un, et aussi après, pour développer, si c'était possible, l'énergie civile. À l'époque, le souci n'était pas de faire des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Ça, c'est venu dans un deuxième temps, à partir de 1973-74, quand il y a eu la première crise du pétrole, où a été lancé en France le plan de construction des centrales nucléaires. Mais avant, la priorité numéro un, au début des années 45, des années 45 à 70, c'était avant tout de faire la bombe et de produire des matières premières pour pouvoir faire de la bombe, donc de l'uranium enrichi, etc. Et y compris les centrales qui avaient été mises en place, elles servaient surtout à produire des matières premières pour la bombe. Qui a été continué, y compris avec le surgénérateur Superphénix qui était dans la région Rhône-Alpes, où sa fonction numéro un, outre de produire de l'électricité, c'était qu'à la sortie, il y avait plus de plutonium qu'à l'entrée. Et donc, ça permettait de disposer des matières pour faire les explosions nucléaires, parce que ça consommait beaucoup de matières nucléaires, et aussi pour construire l'arsenal nucléaire, puisqu'en France, on a eu plus de 600 bombes à un moment donné.
Alors, ce qui m'étonne, excuse-moi Patrice, mais ce qui m'étonne, c'est que toi, tu es censé quand même défendre une certaine cause, c'est-à-dire que l'Observatoire, apparemment, défend la pacification plus que l'armement, a priori. Et là, j'ai l'impression que tu essaies de justifier des actions qui ont été prises par des politiques à l'époque, et puis...
Non, je n'essaie pas de les justifier, j'essaie de les expliquer pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on peut pas comprendre, enfin on peut se situer simplement à dire tout se passait mal et tout, mais il faut quand même se resituer dans le contexte si on veut comprendre ce qui s'est passé. Ça me semble, c'était ça que j'essayais de montrer dans un premier temps. Bien évidemment qu'après, la question justement des conséquences par rapport aux victimes, et ça je l'ai dit, c'est bien que justement il y avait aucune précaution qui était prise et que c'était pas la priorité justement de ces gens-là de prendre des précautions par rapport aux populations. Leur priorité, c'était de faire la bombe. Et donc les dégâts collatéraux, comme on dit maintenant, n'étaient pas du tout pris en compte, n'étaient pas du tout envisagés par rapport aux populations. Et c'est pour ça que la personne, je ne me rappelle plus de son prénom, Patrice, je crois aussi, qui a témoigné, disait qu'il n'y avait aucune précaution prise pour le personnel. Et pour les populations, c'était encore pire. Parce que sur certains atolls, donc où il y a eu des essais atmosphériques, les militaires avaient droit à un abri, ils avaient construit des abris en béton avec des gros murs épais pour les protéger. L'atoll de Touréia, qui est à une centaine de kilomètres de l'atoll de Mororoa où on faisait les essais. Donc les militaires, ils avaient droit à un atoll en béton. Les populations civiles, elles avaient droit à un abri en tôle, tout simplement, en tôle ondulée, voilà. Donc, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être protégés.
Tu veux intervenir
Est-ce que aujourd'hui, on a un petit peu un état des lieux des conséquences de ces essais pour les populations?
Non, puisque pour avoir un état des lieux, à la fois pour les populations et pour le personnel, il aurait fallu en quelque sorte faire un point zéro, c'est-à-dire qu'il y ait avant de faire les essais, avant de commencer les essais, que ce soit en Algérie ou en Polynésie, faire un état des lieux de la population, par exemple, pour au niveau médical, pour pouvoir après mesurer les conséquences par rapport à ces populations, mesurer le nombre de morts qui a pu avoir à cause des essais. Par exemple, en Polynésie, il n'existe jusqu'aux toutes dernières années, il n'y avait pas de registre de cancer. Donc en fait, il n'y avait pas de... On ne répertoriait pas pourquoi les gens mouraient plus tôt que d'habitude. On ne se posait pas cette question-là. Enfin, les militaires, parce que c'est eux qui assuraient la santé des Polynésiens. C'est eux qui assuraient le contrôle sanitaire des Polynésiens jusqu'à la fin des essais, pendant toute la période des essais. Donc bien évidemment, ce n'est pas eux... C'est pas le ministère de la Défense, enfin le service de santé des armées, qui va soulever les problèmes que pouvaient rencontrer les populations. Et nous, d'ailleurs, si on a commencé à travailler sur les questions des conséquences des essais nucléaires en 1990, c'est suite à des missions de médecins étrangers et notamment de Nouvelle-Zélande, qui étaient venus en Polynésie et qui constataient des surcroîts de maladies, de mortalité dans la population. Et qu'ils avaient fait un rapport diffusé par Greenpeace à l'époque en Nouvelle-Zélande, que nous, on a traduit en français et qu'on a essayé de diffuser, enfin qu'on a diffusé en France, et qui a servi de point de départ à la mobilisation, y compris des personnels, sur cette question-là.
Alors, il y a Patrick qui est vétéran, qui voudrait te poser une question.
Oui, ça m'intrigue un peu qu'on présente les choses de cette façon-là. C'est un peu minimaliste. Les Néo-Zélandais avaient des problèmes de retombées aussi de radioactivité sur leur sol. Ils ont eu énormément de pathologies de même nature. Et ils ont eu effectivement des alertes au même titre qu'en Australie, parce que les vents, ça déplace les poussières radioactives très très loin, hein, comme Tchernobyl a pu être un exemple. Ils ont eu donc des pathologies, ils étaient tout à fait au courant des risques encourus. Ils ont d'ailleurs alerté probablement, où il y a eu une réciprocité chez les scientifiques de l'époque, pour alerter précisément que les pathologies liées aux effets radio-induits arrivaient jusqu'à chez eux. Donc je m'étonne qu'ils soient venus voir ce qui se passe alors qu'ils avaient déjà les éléments chez eux.
Oui, oui, bien sûr. C'est bien pour ça qu'ils ont commencé à s'inquiéter et qu'ils ont fait des études. Mais justement, c'est eux qui ont commencé les études. C'est pas en France qu'on a commencé à s'inquiéter de ce qui se passait en Polynésie. C'est les Néo-Zélandais, parce qu'ils en subissaient les conséquences, qui ont commencé à s'inquiéter de ce qui se passait en Polynésie et qui ont fait les premières études et qui étaient en anglais, bien évidemment, hein, puisque bon, voilà, et qu'on a traduit en français pour pouvoir diffuser en France et pouvoir alerter l'opinion et les responsables politiques. C'est comme ça que les choses se sont passées. Parce que, bon, en France, effectivement, jusque dans les années 2000, il y avait très peu d'inquiétudes ou très peu de questions ou très peu de mobilisation, malheureusement, par rapport à cette question-là.
Oui, mais justement, qu'est-ce qui montre ces études exactement? Il y a vraiment eu des recherches de fait avec des analyses
Les études, dans un premier temps, c'était des constats de voir qu'il y avait des problèmes au niveau des gamins, notamment, il y avait des problèmes de mortalité importantes. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que dans cette région-là, il n'y avait pas de registre de cancer, c'est les médecins militaires qui assuraient les services de santé. Donc, du coup, il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de... On peut constater dans les cimetières le nombre de morts, mais c'est pas marqué de quelle maladie ils sont morts sur la tombe. Donc après, il a fallu essayer de faire un travail d'enquête auprès des populations, notamment. On a fait pareil aussi auprès des personnels qui ont participé aux essais, de façon à pouvoir essayer de mesurer l'augmentation de mortalité et le type de maladie duquel les gens mouraient. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'AVEN, l'Association des vétérans, a été lancé un questionnaire sur la santé et donc sur les différents personnels qui ont pu participer, enfin, ceux qui sont adhérents de l'association, parce que sur 150 000 personnes qui ont participé aux essais nucléaires en tant qu'appelés ou employés d'entreprises civiles ou de militaires, l'association de l'AVEN regroupe 5 000 personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents et donc on ne peut pas savoir les problèmes de santé qu'ils rencontrent. Et donc sur ces 5000 personnes, il y a eu une enquête de santé qui a été faite et qui montrait que par rapport à une classe d'âge identique, ceux qui ont participé aux essais avaient en gros 30% de plus de cancer. Il y avait une surmortalité, si vous voulez, par rapport à une classe d'âge identique qui n'a pas participé au programme des essais nucléaires.
Oui, mais justement, il y a eu 150 000 personnes de personnel sur les atolls, mais aujourd'hui, il n'y a plus que 10 000 personnes vivantes, donc effectivement, s'ils sont tous morts...
C'est impossible à savoir. Ce chiffre-là, je ne sais pas d'où il sort. Il y a 150 000 personnes qui ont participé. Enfin, les derniers essais sont terminés en 1996, les gens ne sont pas encore morts. On ne sait pas du tout le nombre de personnes vivantes ou pas. Il n'y a eu aucune étude de fait là-dessus. l'armée, à la limite, il n'y a que l'armée qui pourrait prendre la liste de tous les personnels qui ont participé, parce qu'ils l'ont, ils ont enregistré, c'est bien organisé pour ça, et faire une étude pour essayer de voir qu'est-ce que sont devenues ces personnes. On n'a aucune donnée là-dessus. Ça, c'est un chiffre qui sort de nulle part.
Oui, donc on va faire une petite pause musicale.
On va donner des fausses informations parce que c'est pas forcément ça qui permet d'avancer et d'être pris au sérieux et de pouvoir convaincre après les parlementaires de modifier la loi ou d'en faire une comme il faut ou dans les médias, etc. Non, sur le nombre de personnes qui ont participé, on ne sait pas combien sont malades, malheureusement. Il faudrait le savoir, il faudrait pouvoir faire une étude, mais il faudrait que l'armée accepte de donner les listes des personnels, ce qui refuse bien évidemment, puisque pour eux, les essais nucléaires étaient propres. Il n'y avait aucun problème.
Vas-y, Céline, tu voulais dire ?
Non, je voulais juste annoncer qu'on allait faire une petite pause musicale, mais qu'ensuite, on allait reprendre, et notamment, Patrice, on t'écouterait, et ainsi, nos deux invités, pour faire un bilan sur la loi Morin, donc, qui est passée en 2010 et qui présente énormément de lacunes.
Sans être sans recours, il faut qu'on soit clair, supprimer les centrales nucléaires et remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. À l'autodestruction, yeah. Je déplore l'âme du Cro-Magnon. Yeah. Il faut arrêter le train de ces vilains petits malins transportant le monde vers la fin. Yeah.
May the wicked man be eliminated from all of our earth forever, ever.
Soit clair, supprimer les centrales nucléaires et remplacer par les systèmes solaires pour protéger les enfants de la terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec la verre kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Oh, yeah. C'est le pouvoir au mépris de l'art. Supprimer les centrales nucléaires et remplacer par les systèmes solaires pour protéger les enfants de la terre. Wow, wow. Promettons arrêter de polluer afin de préserver l'humanité. Promettons arrêter d'empoisonner
les enfants de la terre.
Oh, la, la, la. On peut plus cher. Supprimer les centrales nucléaires.
Toujours été très, très mal informé de ces choses-là. On savait, on connaissait ce qui s'était passé à Hiroshima, à Nagasaki, et ce qui se passait dans différentes expérimentations américaines et anglaises, mais on était loin de savoir ce que cela représentait et représentait pour nous.
Il faut dire qu'à l'époque, et malgré leur certitude, les scientifiques naviguaient à vue. Sur un point essentiel notamment, la direction des vents qui autorisait ou non le tir.
Dans les années 60, il n'y avait pas encore des modèles numériques de prévision du temps. Donc on faisait des radiosondages avec à peu près une quinzaine de sites. Et donc les radiosondages envoyaient un ballon. Et en fonction du déplacement de ballon, on arrive à voir les vents en altitude. Et après, donc, on avait sur ces 15 points la connaissance du vent à différents niveaux d'altitude. Et à partir de ça, les météorologistes traçaient des cartes pour connaître la répartition des vents dans toute la zone, quoi.
Oui, et donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Zoom Écologie. Voilà, donc on parle donc des essais nucléaires qui sont passés en Polynésie française dans les années 68. Patrick, tu étais vétéran là-bas.
Oui.
Nous parlais du secret défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est très simple. Nous, ce que nous avons pu obtenir, c'est désormais rendu public, mais uniquement depuis le 22 janvier 2012. C'est pas très très loin. Donc... avant, si c'est subordonné au secret défense, on ne pouvait pas faire grand-chose, forcément. Mais bien entendu que, à partir du moment où on admet implicitement, tout du moins, qu'il y a eu des conséquences fâcheuses sur les personnels, il est bien entendu qu'on revendique naturellement qu'il puisse y avoir une réparation des préjudices subis sur une période quand même assez longue, puisque sur le plan psychique, on a quand même ce qu'on appelle un pressum doloris avéré. Donc il me semble qu'au moins, s'il y a loi Morin, qu'on puisse enfin accéder, comme ça a pu se faire en Nouvelle-Zélande, comme ça a pu se faire en Australie, comme ça a pu se faire aux États-Unis, et combien même derrière, sur le plan, sur la filière civile en Tchernobyl, tous ces personnels ou tous les gens qui ont été victimes de phénomènes radio-induits ont été sinon indemnisés, ont eu une reconnaissance de leur pays respectif. Il serait temps que dans ce pays où on a fait les mêmes fâcheuses expériences qui nous permet actuellement d'être chauffés et éclairés, d'avoir une certaine reconnaissance des personnels qui ont été impliqués dans cette espèce de curieuse façon de procéder.
Très bien. Est-ce que Patrice est toujours là?
Oui.
Oui, bonjour Patrice. Alors, ton avis, toi, justement, sur la loi Morin, je pense que tu as lu le document ou tu as peut-être même participé à ça?
Oui, j'ai participé à certaines des négociations. Déjà, faut resituer la loi Morin, si vous voulez. À partir du moment où les vétérans ont pu se regrouper, où un travail a pu être fait, il y a eu tout un travail qui a été fait auprès des parlementaires. On a organisé des colloques à l'Assemblée nationale, au Sénat pour les conscientiser. Et il y a eu en tout 18 propositions de loi qui ont été déposées par des parlementaires de tous les partis. C'est-à-dire qu'on a commencé les premiers à déposer une proposition ont été les écologistes. Le Parti communiste, après le PS... Après, y compris des gens de l'UMP ont déposé des propositions de loi. Mais et on est arrivé même à une situation où on a mis ensemble autour d'une table, une table ronde avec des représentants des différents partis, on avait élaboré une proposition de loi commune. Une proposition de loi commune que Mme Taubira, qui était à l'époque députée, s'est emparée et a utilisé ce qu'on appelle une niche parlementaire pour la déposer, et ce qui oblige le gouvernement, enfin, ou le Parlement, du moins, à en discuter, puisque c'est le gouvernement qui maîtrise l'ordre du jour du Parlement, sauf quelques niches parlementaires qui sont réservées aux différents partis. Donc le PS a accepté d'utiliser une niche parlementaire pour déposer une proposition de loi commune qui avait été élaborée en lien avec les associations et qui aurait permis, à partir du moment où une personne avait été sur les lieux et avait une maladie liée à la radioactivité, d'être automatiquement indemnisé sans autre procédure. Le gouvernement de l'époque, donc Sarkozy avec Morin comme ministre de la Défense, voyant effectivement que l'ensemble des partis droite-gauche commençaient à s'unir sur cette question-là, s'est empressé de déposer un projet de loi et a demandé aux députés UMP, bien évidemment, de le soutenir et de ne pas soutenir la proposition de loi qui pouvait être déposée par Mme Taubira, même si certains députés de droite avaient participé à cette proposition de loi. Et c'est ce qui s'est passé. Et la proposition de loi déposée par Morin, en fait, fait en sorte que c'est le ministre de la Défense, on se demande bien à quel titre, justement, parce qu'il n'est pas les problèmes de santé, c'est quand même pas son domaine, qui décide, de fait, qui a droit à une indemnisation ou pas. Tout le pouvoir a été conservé et a été remis entre les mains du ministère de la Défense pour décider de qui est malade ou pas malade. Alors après, bon, sans rentrer dans les astuces juridiques qui ont été mises en place, si vous voulez, on se retrouve avec une loi qui, d'un point de vue théorique, permet à toutes les personnes, y compris les populations, y compris les ayants droit, c'est-à-dire si la personne qui a participé aux essais est décédée, donc les enfants ou la veuve, de pouvoir déposer un dossier pour avoir une indemnisation. Et dans la pratique, au bout de 2 ans de mise en œuvre de cette loi, seulement 11 personnes, à ce jour, ont pu bénéficier d'une indemnisation, et souvent des sommes assez ridicules en termes de montant, y compris par rapport au préjudice subi par ces personnes. Et dans ces 11 personnes, il n'y a aucun Algérien, aucune population algérienne, bien évidemment. Voilà la situation où on en est, si vous voulez. Il y a une loi qui pose le principe de reconnaissance. Voilà, ça fait joli dans le décor. Et tout a été mis en œuvre pour la vider de sens. Donc c'est une loi purement d'affichage et pas du tout une loi qui permet une véritable prise en compte des problèmes rencontrés par les personnes. Parce que même compte tenu des limites de la loi, les associations ont pu déposer à peu près, là à l'heure actuelle, plus de 900 dossiers qui rentraient dans le cadre de la loi Morin. C'est-à-dire que les personnes avaient entre guillemets, la maladie correspondant à la liste établie. Il y en a 21 maladies reconnues par le gouvernement français, pouvant être liées à la radioactivité, étant au bon endroit, parce qu'effectivement, il faut être dans des zones bien déterminées où on retrouve un peu l'effet de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'ils ont fait un découpage des zones de façon à éviter certains villages où habitaient les gens, comme si les nuages, bien évidemment, et les retombées allaient bien aux endroits où on leur avait dit qu'il y avait comme une frontière, comme ça. Et puis aussi aux bonnes dates, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a arrêté les essais, la radioactivité n'existerait plus, ne fonctionnerait plus, alors qu'on sait très bien que la radioactivité a des durées de vie qui se comptent plutôt en dizaines de milliers d'années et qui ne s'arrêtent pas le jour où de la fermeture administrative du site où il y a eu les essais. Malgré ces contraintes-là, il y a eu plus de 800 dossiers qui ont pu être déposés. Je vous dis, on en est à 11 personnes indemnisées.
Oui, c'est ça.
Oui, non, moi j'ai juste une question justement. Comment dans le dispositif de la loi Morin, qui est à la charge de la preuve? Est-ce que c'est aux vétérans de devoir prouver d'une certaine façon?
Non, d'un point de vue théorique, la charge, c'est justement, ça a été renversé. C'est au ministère de la Défense de prouver que la personne, que la maladie que la personne a n'est pas liée aux essais nucléaires. Non, en théorie. Dans la pratique, hein, si vous voulez, ça se traduit par trois mots. Dans la loi, il y a une commission d'indemnisation qui a été mise en place et qui examine cas par cas si la maladie qu'a eu la personne est liée aux essais ou est liée à autre chose. Et donc, il considère que dans les 99% des cas de rejet, c'est qu'effectivement, les risques étaient négligeables. C'est à partir de ces deux mots-là qui sont introduits dans la loi qui rejettent tous les dossiers. Ils disent pas que la personne, il n'y a pas de lien. Mais c'était des risques négligeables auxquels ils ont été exposés au moment des radiations et donc ils peuvent pas être indemnisés au titre de la loi.
Alors par rapport à cette réalité que tu viens de décrire, quel est ton sentiment toi personnellement? Tu considères que c'est normal que le ministère de la Défense soit jugé parti dans cette affaire?
Ah non, toute la bagarre qui est menée avant que la loi Morin soit votée et depuis que la loi Morin est votée, c'est déjà la première chose qui sera à faire, c'est de sortir cette question d'indemnisation des mains du ministère de la Défense et de les confier à soit un comité interministériel, Soit, au départ, même, on avait proposé que, comme pour l'amiante, si vous voulez, que le même processus que l'amiante, qu'il y ait un fonds d'indemnisation indépendant dans lequel le ministère de la Défense pourrait être présent, mais que les associations de victimes pourraient aussi être présentes, que des médecins indépendants pourraient être présents, qui puissent faire ce travail d'examen, mais que ce ne soit pas au ministère de la Défense qui est jugé parti, bien évidemment, parce que c'est lui qui a fait les essais, et donc il ne veut pas reconnaître sa responsabilité dans l'affaire, enfin dans les conséquences et dans les dommages et les préjudices subis tant par les personnes que par les personnels, que ce soit lui qui décide. Parce qu'au final, c'est le ministre, par une décision du ministre lui-même, que la personne peut être indemnisée ou pas indemnisée. C'est totalement inadmissible. Et donc, il y a de nouveau un travail qui a été repris.
Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Je voudrais poser une simple question. Si à partir du moment où on n'est plus que 10%, je soutiens que ça a été rendu public, comme nous ne sommes plus que 10% des effectifs, on peut raisonner de la façon suivante. Nous avons 20 ans d'espérance de vie inférieure à la moyenne nationale. Quand on constate que, bon, on peut s'appuyer même là-dessus, réciprocité fait force de loi, qu'on a des constats en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou aux États-Unis d'indemnisation pour le précium doloris, pour le fait qu'on puisse avoir une quelconque considération sur des personnels qui ont pu faire que la filière nucléaire civile actuelle nous permet à nous, l'ensemble de la nation, d'avoir du chauffage et de l'éclairage, qu'on puisse être considéré à cette hauteur, comme ça a été fait en Nouvelle-Zélande, comme ça a été fait en Australie, comme ça a été fait aux USA, et combien même Tchernobyl est un exemple type, ils ont été indemnisés et reconnus par la nation. En Russie également, il suffirait de s'appuyer sur la réciprocité qui fait force de loi par rapport à tous ces pays et qu'on reste pas à la traîne parce qu'on passe pour vraiment des ridicules.
Bon, alors, quelles sont les mobilisations qu'il peut y avoir du coup face à cette loi ridicule ?
Quand même un certain nombre de choses. Je peux malheureusement pas laisser dire des choses comme ça. Bon, je ne reviendrai pas sur le nombre, je l'ai déjà dit, on n'en sait strictement rien, donc on ne peut pas affirmer qu'il y a plus de 10 000 personnes, ça c'est complètement faux là-dessus.
Ni monsieur, même sur la durée, moi j'ai eu des informations différentes, alors c'est ma parole et la vôtre qui sont face à face. Vous avez un observatoire, eh bien il n'est pas très efficace, pardonnez-moi de vous le dire.
Oh ben, vous pouvez le dire si vous voulez, mais il n'y aurait pas eu le travail de l'observatoire et les études de fait. Je pense que la veine n'existerait pas parce que c'est nous qui avons lancé, c'est à partir d'une initiative de l'observatoire que la veine a été créée. Elle n'existait pas avant et les gens ne se regroupaient pas. Donc, si vous voulez, moi je veux bien, c'est pas le problème à ce niveau-là. Le problème,
en justice, il y a un principe qui s'appelle le délai raisonnable. Vous connaissez l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à partir du principe du délai raisonnable, il est de 6 mois, et qu'on se retrouve avec combien de temps d'attente par rapport à une réponse juridique ?
Ah mais ça c'est encore autre chose. Moi je voulais revenir sur ce qui s'est passé à l'étranger, parce que bon, vous y faites référence. Aux États-Unis, il y a eu une bagarre aussi pendant pas mal d'années avant qu'ils obtiennent la loi, et la bagarre continue parce que la loi, elle est loin d'indemniser les gens autant qu'il y a des problèmes de santé. Hein. La liste des maladies évolue en permanence, elle est élargie en permanence, justement en fonction du travail qui est fait par les associations sur place aux États-Unis. Pareil en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et la différence entre l'Australie et notamment la Nouvelle-Zélande, où ils ont obtenu plus facilement des indemnisations, c'est que ce n'étaient pas leurs propres essais faits par leur propre État. C'était les essais faits par notamment les Américains ou les Anglais. Et donc c'est la mobilisation au sein de la société est toujours plus facile quand ça renvoie à des choses extérieures et à un État extérieur, que quand ça renvoie à son propre État, parce que notamment au Royaume-Uni, ils ont énormément de difficultés. En Russie, vous faisiez référence que tout le monde est indemnisé. C'est, c'est faux. Il y a encore les problèmes d'indemnisation des victimes de Tchernobyl est loin d'être réglé. Il est encore loin d'être réglé. Parce qu'il y a d'énormes problèmes qui se posent. Il y a eu les liquidateurs qui ont été en partie, et encore pas tous, indemnisés, c'est-à-dire les personnels qui sont allés, effectivement, qui ont pris des risques énormes pour essayer d'éteindre l'incendie, enfin de limiter la casse, si vous voulez, de cet accident, qui ont eu des indemnisations. Mais la population de Tchernobyl, elle n'a aucune indemnisation. Donc on en est... C'est pour ça que, si vous voulez, si on veut arriver à progresser, il faut aussi partir de la réalité et se battre, effectivement. Et c'est une des difficultés qu'on a rencontrées en France, c'est d'arriver à mobiliser à la fois au niveau des médias, bien évidemment, mais aussi au niveau de l'ensemble du personnel et qui a participé aux essais. Parce qu'une association sur 150 000 personnes, alors je sais bien qu'il y en a un certain nombre qui sont morts, puisque les essais ont commencé dans les années 60, donc les gens avaient 20 ans, enfin maintenant ça serait des gens qui ont plus de 90 ans, et il y en a bien évidemment qui sont morts. Mais qu'il n'y ait que 5000 personnes adhérentes, ça ne veut pas dire forcément militantes, c'est aussi ça la difficulté qu'on rencontre.
Est-ce que c'est des questions qu'on peut véritablement se poser dans un État aussi nucléaire que la France ? Et est-ce que pour pouvoir traiter sereinement ces questions, il ne faudrait pas commencer par quitter totalement le nucléaire en France ?
Il faudrait déjà relier effectivement les questions qui se posent pour le personnel qui a participé aux essais, y compris il y a du personnel qui a travaillé dans les usines pour préparer dans les arsenaux de l'État pour préparer les bombes, qui actuellement sont aussi en procédure avec des procès sans fin contre l'État et qui n'arrivent pas non plus à se faire indemniser, avec tous les problèmes qu'il y a aussi autour des centrales nucléaires, parce que bien évidemment, il y a aussi des problèmes rencontrés, mais qui ont été dénigrés chaque fois, notamment d'augmentation de leucémie, et notamment par rapport aux enfants autour de La Hague, donc l'endroit où se fait le retraitement des essais nucléaires. Il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites sérieuses, c'est-à-dire de manière indépendante, autour de chacun des lieux où il y a du nucléaire en jeu, si vous voulez, donc soit des lieux de déchets, soit des lieux de production d'électricité, soit des lieux de production d'armes nucléaires, pour mesurer au niveau de la santé les effets et à partir de là, de faire un vrai travail de manière plus collective, effectivement, entre ceux qui luttent contre le nucléaire civil et ceux qui luttent contre le nucléaire militaire. Mais malheureusement, en France, c'est quelque chose d'assez difficile à faire, y compris que les associations de victimes des essais nucléaires ne veulent pas trop travailler avec ceux qui luttent contre le nucléaire civil, par exemple.
Oui, une petite question encore. Vas-y, Lisa.
Mais d'ailleurs, là, tu fais le lien entre les victimes. Moi, j'avais envie de tisser les liens entre les formes de production. C'est-à-dire que Patrick Corentin nous disait que le rapport entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est des affinités qui sont dans la production même, en fait. Tu peux nous en dire un mot, Patrick, s'il te plaît ?
Oui, en effet, il y a... Bon, on le sait, ce ne sont pas que des rumeurs. On sait très bien qu'il y a une filière civile qui transmet, une fois que l'uranium enrichi s'est appauvri, cet uranium appauvri aux militaires. Donc il y a visiblement collusion entre la filière civile et la filière militaire. Et fatalement, laisse à penser que ce genre de situation puisse perdurer et maintenir de cette manière-là un consensus un peu mou, pour ne pas dire autre chose.
Oui.
Alors j'ai une question, Patrice, j'ai une question à te poser parce que là, quand même, l'émission tire à sa fin. Donc d'abord, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Mais je voulais te demander quand même, parce que là, le secret militaire vient d'être levé sur la question des essais nucléaires au niveau des atolls. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Est-ce que tu penses que ça va assez loin ? Parce que apparemment, les rapports qui ont été rendus par la défense, c'est beaucoup de pages blanches et donc le secret a été levé, mais pas complètement, quoi.
Si vous voulez, parce que bon, on a les documents donc sur lesquels il y avait. Il y a une toute petite partie des documents sur lesquels le secret défense a été levé, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a une loi depuis 2008 qui classe tous les documents ayant trait au nucléaire de manière incommunicable, de manière permanente. C'est-à-dire que même au-delà du délai des 60 ans, comme pour les autres archives, ils ne seront pas rendus, ils tomberont pas dans le domaine public. Donc à la demande des associations, donc polynésiennes, Mororoa et Tatou, et de l'association AVEN des vétérans des essais nucléaires en métropole, après des procédures juridiques, procès, etc., ont obtenu la levée du secret défense sur quelques documents. Il y en a eu 58 documents précisément qui ont été levés dans un premier temps. Il devrait en avoir 180 là bientôt. Mais 200, ces 200 documents sont loin de recouvrir l'ensemble des documents traitant effectivement des retombées, notamment suite à chacun des essais, puisqu'après chaque essai, il y avait des rapports faits, des mesures prises, etc. Donc on en est très loin, et encore, par rapport aux 58 premiers documents dont on a pu examiner les uns après les autres, puisqu'on les, on les a récupérés, il y a dedans, effectivement, très très peu de choses intéressantes, c'est-à-dire des mesures réelles de retombées. Il y a un certain nombre de pages blanches, comme cela a été dit, bien évidemment, qui devaient être les pages les plus intéressantes, entre guillemets, par rapport aux informations données. Et donc, elles ont été supprimées de l'ouverture des secrets, des archives. Donc là, même à ce niveau-là, il y a encore un énorme travail à faire.
Excuse-moi, Patrice. Oui, de toute façon, tu seras invité dans une autre émission si tu veux participer à une émission comme celle-ci, parce que l'affaire n'est pas close, qu'elle commence. Voilà. Donc j'ai passé la parole à Céline. Vas-y, Céline, tu voulais dire.
C'était un petit peu sur un autre sujet, mais pour faire un point sur l'actualité du nucléaire en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est face à l'ouverture du débat public sur le projet CIGEO, qui est le projet de centre d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Et donc le débat public se déroulera du 15 mai au 31 juillet et du 1er septembre au 15 octobre 2013. Et donc il faut rappeler, nous avons consacré une émission sur ce sujet, donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet zoomecologie.net. Mais donc, comme le rappellent de nombreuses associations, ce débat public n'est pas du tout destiné à remettre en cause ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires, donc en Meuse, Haute-Marne, mais simplement à marteler que ce projet d'enfouissement est la solution au problème des déchets et que l'ANDRA, donc l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs, maîtrise tous les risques. Plusieurs expériences l'ont montré, les débats publics sont un leurre. En 2005, les conclusions d'un précédent débat public préconisaient de ne pas enfouir les déchets. Et un an après, la loi qui a été votée allait exactement dans le sens inverse. Donc, je voulais retransmettre ici un appel d'associations donc, de Bure Zone Libre, de Bure Stop 55, d'EODRA, l'association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, de Meuse Nature Environnement, du NPA Meuse, de Attaque Meuse et d'autres qui ont décidé de ne pas participer à ce débat et qui invitent à le boycotter.
Très bien, cette émission se termine. Merci à Patrice de l'Observatoire et à Patrick, le vétéran, d'être avec nous ce soir. Merci, mesdemoiselles, d'avoir participé à cette émission aussi. À Cyril, le technicien. Cette émission se termine. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de longs garçons. Ciao.
Ah, pas plus doux, tout des...
Chers humains, c'est votre mère qui vous écrit et vous cause. Je prends ma plume pour défendre ma cause. Je m'adresse à vous, mes terriens, vous qui sans moi n'êtes rien. Je suis votre terre-mère qui ne compte pas se taire, celle à qui vous devez votre vie, celle par qui vos cinq sens sont assouvis depuis votre naissance en réticence, celle à qui vous devez votre existence, à qui vous donnez peu d'importance, l'obligeant aujourd'hui à mener sa résistance. Sa résistance. Rare que mes signes et sentiments soient écrits et qu'ils riment. Mais là je suis à bout, donc je crie au crime et les crimes écrits. Je vous écris en tant que terre en crise dont les alertes trouvent trop peu d'écho. J'espère que ces mots mettront fin au chaos. C'est donc à bout de souffle que je vous lance cet appel en contenant ma haine. Car toutes ces erreurs que vous dites humaines, je lance sur moi la terre, l'horreur et la terreur.